Bienvenue sur le podcast de Lectus. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre saga sur la tasse miroir avec les disparus du clair de lune. Et si je devais choisir un clan, je choisirais celui des nihilistes.
Copiteuse.
Ah là là, bah oui, t'aurais pris la même chose.
Ouais, j'aurais pris la même chose.
Bah en même temps, trop pratique de pouvoir annuler les pouvoirs de tout le monde, quoi. Comme ça, t'es toujours en sécurité.
Et oui. Voilà le vrai visage des gens.
Tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce deuxième livre ?
Eh bah oui, résumé de l'intrigue de ce deuxième livre. Donc on reprend hein, dans la lignée hein, du premier. Il n'y a pas de temps entre les deux bouquins. Donc Ophélie, elle est nommée vicomteuse par Farouk, l'esprit de famille du pôle. Donc c'est une promotion assez inattendue pour elle, hein, qui la place au cœur des tensions politiques et des jalousies au sein de l'aristocratie. Donc elle doit raconter tous les soirs des histoires à Farouk et aux nobles, mais elle devient en même temps donc la cible de complots et notamment de menaces. En parallèle, il y a des disparitions donc mystérieuses de personnalités influentes qui surviennent à la cour. Et Ophélie, elle va se retrouver, bah, malgré elle, hein, impliquée dans une enquête assez complexe qui la pousse à découvrir bah, les secrets de Farouk, de son livre et du pôle en règle générale. Et donc on va suivre aussi l'évolution forcément de la relation entre elle et Thorn. Et donc on vous propose bah, de passer sur la partie 100% spoil pour en découvrir davantage.
C'est donc parti. On retrouve Ophélie à la cour de Farouk, qui s'appelle aussi donc la cour des mirages, et elle va être officiellement présentée à l'esprit de famille comme la future épouse de Thorn. Donc elle est plutôt nerveuse parce que sa présentation à l'esprit de famille va dépendre son avenir. Et apparemment l'esprit de famille il est un peu comment dire tatillon, il est un peu spécial. Donc elle va se présenter, mais au final Farouk il est pas très intéressé par sa présentation, il s'en fout. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est que Archibald, dont on a parlé dans le premier livre, qui fait partie du clan de la Toile, il va promettre en fait son alliance à Bérénilde et Ophélie, qui font partie du clan des dragons au final maintenant, pour leur offrir une protection, notamment contre les autres clans, puisqu'on le rappelle, les dragons se sont fait buter lors de la chasse. Donc voilà, ça commence pas très très bien, c'est un peu, l'ambiance est plutôt pesante. Est-ce que tu peux redire, pour ceux qui auraient oublié depuis le dernier épisode, pourquoi Thorn, bon c'est pas qu'il veut, mais il doit se marier avec Ophélie?
Oui, alors Thorn, on dit que c'est un enfant illégitime, donc il est moitié dragon par son père, moitié chroniqueur par sa mère, donc c'est un des clans déchus du pôle, et donc il veut se marier avec Ophélie, parce que au cours des mariages, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du don, où donc les deux mariés partagent leur pouvoir. Et donc il veut récupérer la lecture d'objets d'Ophélie, afin de pouvoir lire le livre de son esprit de famille, le livre de Farouk, qui, on le rappelle, c'est un peu la même chose que le livre d'Artémis, tous les esprits de famille, a priori, en ont un. C'est un livre de chair, complètement illisible, indéchiffrable, et donc il veut pouvoir, pouvoir le lire avec toutes les compétences qu'il aura maintenant accumulées.
Pour se faire bien voir auprès de Farouk.
C'est ça.
Et oui, on ne l'a pas dit, mais d'ailleurs le clan des chroniqueurs, eux, leur spécificité, c'est qu'ils ont une super mémoire.
Oui, oui.
C'est ça. Mm-hmm. D'où du coup le fait qu'ils soient intendants, parce que tu peux pas le duper sur les chiffres.
Ça, il n'oublie jamais rien.
Voilà.
C'est un de ses gimmicks d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Je n'oublie jamais rien.
Merci. On avait remarqué. Donc, on les retrouve tous les deux. Il y a des nouveaux personnages qui vont faire leur entrée. Notamment, je crois de mémoire, Cunégonde, qui fait partie du clan des mirages et qu'elle va rencontrer, je sais plus, parce qu'elle se promène dans la cité.
Oui, bah après sa présentation à la cour, donc finalement elle est là, c'est une femme a priori entrepreneuse, Oui, elle a un business,
et entreprenante aussi.
Elle a un business un peu particulier qui fait concurrence à celui de la mère Hildegarde.
Oui.
C'est qu'elle tient des illusoires érotiques. Donc voilà, pour s'évader.
Oulala.
C'est un peu la maquerelle, voilà.
Du pot.
Et donc elle approche Ophélie en mode toi et moi, businesswoman, on va faire des affaires. Mm. Ophélie, elle dit non, non.
J'ai pas trop envie de tremper là-dedans.
Et donc voilà, sur ce, a priori, on sait pas plus. Cette femme passe son chemin, mais bon, on apprend quand même par Archibald que. Et oui, ce serait fait déjà une ennemie, encore une de plus, bien voilà. Après tous les mauvais traitements qu'elle a subis en tant que valet. Ça commence bien pour sa entrée officielle à la cour de Farouk.
Et alors, dans ce livre, on a quand même des passages, des petits chapitres qui sont coupés avec des souvenirs, en fait, des esprits de famille. Moi, au début, je comprenais pas ce que ça venait faire là.
Oui.
En plus, c'est super... C'est très ésotérique la façon dont c'est amené, c'est vraiment des bribes de souvenirs. Donc, dès le début du livre, quasiment, on découvre en fait que les esprits de famille, en fait, quand ils étaient petits, ils vivaient ensemble dans une maison où, du coup, il y avait une personne qui s'occupait d'eux et qu'on appelle Dieu.
Oui.
Et on ne sait pas qui est Dieu, en fait. On ne voit pas à quoi il ou elle ressemble. Voilà, on sait juste que c'est une présence qui est plutôt lourde dans leur mémoire et c'est plutôt une présence qui est effrayante et très influente. Et voilà, c'est vraiment, je pense, un peu le père dont t'as un peu peur de te prendre une tarte si tu fais un truc
vrai.
De travers.
Oui, il y a ça, on parle d'ombre, on nous parle voilà, d'angoisse, de punition. Enfin, à un moment, ils sont... Les frères et sœurs sont chacun dans leur chambre, ils n'ont pas le droit de se parler, donc oui, assez angoissant comme relation. Et a priori, au niveau de la temporalité, les esprits de famille, ces souvenirs dateraient d'avant la déchirure.
Donc, oui,
avant
c'est,
la formation des arches
ouais.
Et la séparation du monde.
Mais d'ailleurs, du coup, on ne sait pas en fait pourquoi les esprits ont été séparés, sachant qu'ils vivaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà, on a ce premier chapitre d'introduction sur les souvenirs en fait des esprits de famille qui nous en apprennent un peu plus sur l'héritage de parce qu'en fait voilà aujourd'hui on ne sait pas pourquoi les arches ont été créées, quel est le rôle en fait vraiment de ces esprits de famille, d'où est-ce qu'ils viennent à l'origine, voilà on ne sait pas du tout donc il y a une grosse partie intrigue à ce niveau-là qui va d'ailleurs se suivre sur les 4 livres. Donc ça on va le suivre. Et pendant ce temps-là, donc après on revient à Ophélie en fait qui effectivement intègre la cour et elles vont loger dans un endroit qui est le gynécée. C'est trop moche comme mot. Et c'est quoi ce lieu?
C'est le lieu où logent toutes les courtisanes. Donc la protection d'Archibald qui s'étend à Bérénice. Plus si tu sais la contrepartie, pourquoi Archibald accepte d'ailleurs de protéger Bérénilde, en échange de quoi?
Ah, je me souviens pas.
En échange, il demande à devenir le parrain de son futur enfant.
Ah, j'avais complètement zappé. Ok.
C'est un peu voilà, le donnant-donnant.
Ah oui,
et donc il loge avec les courtisanes, puisque Bérénilde étant la favorite de Farouk et attendant son enfant, c'est l'endroit le plus sûr pour elle. En dehors de l'ambassade. Et donc, elles vont se retrouver aussi... alors, autant sur Anima, il y avait les doyennes. Et là, tu sais, elles se retrouvent avec, pareil, des dames âgées qui ne disent rien et qui vont juste être là, qui font partie de la toile et qui vont juste être là en mode caméra de surveillance
pour
les regarder.
Ah oui, c'est vrai.
Truc un peu glauque.
C'est un peu les... comment ça s'appelle tu sais dans le dessin animé Hercule je crois que c'est les moires.
Oui.
Et ben je trouve ça fait un peu cet effet avec tu sais elle se passe l'œil là
oui.
Pour voir. C'est
clairement.
Un peu le même délire. Mais oui du coup elle se retrouve dans cet endroit. Ophélie est très mal vue.
Bon ça va pas changer.
Voilà mais non, là non. C'est encore pire parce que du coup les courtisanes de Farouk les voient d'un mauvais œil notamment parce que en plus Bérénide elle a un peu un statut on va dire gold
oui intouchable ouais.
Vu qu'elle est enceinte bon il y a les brimades qui recommencent très rapidement et surtout Ophélie elle reçoit des lettres de menace
oui
et elle sait pas qui en est l'auteur
à part enfin bizarrement, c'est signé Dieu à la fin.
Ah oui,
Dieu
c'est vrai.
réclame,
Oui,
voilà, votre.
voilà.
Bref.
Mais on ne sait pas qui est Dieu.
Non.
Donc, bon, voilà. Encore une intrigue qui
Ouais,
s'ajoute
c'est
à
ça.
la liste déjà nombreuse.
Et oui, et donc quand on parlait du résumé avec cette nouvelle mission, Farouk étant très obsédé par son livre, le fait d'avoir une animiste sur le pôle à la Cytaciel, bah, tout de suite il est très intrigué par Ophélie, il va vouloir qu'elle lise le livre. Tout de suite, Thorne et les dragons mettent le holà, et non, non, ce sera après donc le mariage. Mais il va lui confier une autre mission, celle de lui raconter des
Ouais.
histoires.
Et elle va devenir vicomteuse.
Voilà, vice-conteuse de Farouk.
Vicomteuse parce qu'il y a déjà un compteur de ce qu'on comprend. Donc, bah, en fait, au final, elle va un peu se retrouver en opposition avec du coup le compteur qui est déjà établi. Donc, il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Donc, elle va devoir, je crois, elle choisit de raconter un conte lors d'une soirée au théâtre.
Oui, ça,
Voilà,
ouais.
c'est.
C'est son grand-oncle qui lui envoie un livre, parce qu'elle a enfin des nouvelles de ses parents.
Oui.
Elle savait que son courrier avait été intercepté lors du premier tome, mais elle n'avait pas eu de nouvelles. Et donc là, a priori, la liaison est rétablie. Et donc son grand-oncle, d'ailleurs, tout le monde va débarquer. Ça, on le
Oui,
sait
il y a un moment
dès
où
le
ils vont
début.
tous arriver.
Il dit, ok, on arrive. Et son grand-oncle lui envoie donc ce livre des contes animistes. Et donc elle va raconter. Donc sur scène, devant tout le monde, devant Farouk et les nobles, sa petite histoire. Et comment t'as trouvé ce passage-là, l'histoire du conte? Je sais pas si tu t'en souviens, pourquoi elle
Oui.
raconte ce conte-là en particulier,
Oui, bah alors,
quelle symbolique?
ouais, bah alors, de ce que je me souviens, déjà, elle le raconte en deux morceaux, parce qu'elle dit pas le conte en entier, parce qu'il met un terme, en fait, au conte. C'est l'histoire d'une poupée, en fait, qui voudrait être plus qu'un jouet. Et d'ailleurs, au début, quand elle commence à raconter l'histoire, bon, voilà, si on remet dans le contexte, Ophélie n'a aucune présence. Vraiment, elle n'a pas de voix, on ne l'entend pas, elle a pas, c'est pas quelqu'un d'éloquent. Donc tout de suite, la foule va un peu la huer. Et au final, Farouk va quand même être intéressé par le début de l'histoire et va demander à la foule de se taire pour écouter vraiment l'histoire. Et sauf qu'au bout d'un moment, il va demander à ce qu'elle arrête parce qu'il sent que l'histoire, elle veut dire plus que ce qu'elle raconte.
Va pas aimer la fin,
Et
la
voilà.
morale.
Et il sent qu'il y a une morale qui va pas lui plaire, donc il arrête et en fait il dit non mais voilà, on verra plus tard pour la fin, mais pour l'instant je m'arrête. Je crois que c'est ça, hein.
Ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'une poupée qui voulait devenir actrice et au final elle rencontre des marionnettistes et voilà, la poupée se rend compte que finalement elle a toujours. C'était pas elle qui avait voulu devenir actrice, c'était
Oui,
la petite
c'était des
fille qui
souhaits.
l'accompagnait, entre guillemets. Et ben, c'était un parallèle hein, avec l'esprit de famille Farouk qui se fait manipuler par sa cour et ses courtisans. Effectivement, seul le début de l'histoire est raconté.
Et entre-temps, on redécouvre quelques petits personnages qu'on avait vus dans le premier livre. Notamment, je sais plus si c'est à ce moment-là que Ophélie, non, je crois que c'est un peu plus loin, qu'elle perd sa capacité à traverser les miroirs. Je crois que
C'est après,
c'est
ouais.
après. Non,
Non, elle peut
elle
toujours.
commence juste à le perdre, parce qu'en fait, elle veut passer un miroir, mais elle reste
Elle reste
coincée
bloquée, c'est
à
vrai.
moitié. Du coup, c'est Thorne qui
Qui
va
est là, bah
l'aider,
ouais,
un
c'est
petit
vrai.
chou, qu'il est galant.
Donc finalement, c'est le début.
C'est le début où en fait voilà, elle se rend compte que son pouvoir avec les miroirs commence à se détraquer, elle a de plus en plus de mal à voyager. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est surtout que Renard, donc qui est son ami en fait qu'elle a rencontré dans le précédent tome, va se faire emprisonner à tort. Je sais pas si tu te
Ouais, dans
souviens,
les oubliettes.
dans les oubliettes, et parce que du coup il commence à y avoir pas mal de. Il y a des disparus en fait.
Oui, une disparition mystérieuse
De personnes.
de personnalités liées à la cour. Il y a des enquêtes qui se mettent en place. D'ailleurs, Ophélie participe à l'une d'entre elles avec voilà, son pouvoir. Elle remonte une piste. Donc elle participe à ça avec Archibald et la mère Hildegarde.
Ouais, tout à fait.
Et tout ça pour dire, j'ai perdu que
Ben, en fait, elle va, oui,
le vide.
elle va pouvoir lire les objets dans les pièces où les disparus,
Oui, c'est ça.
enfin les disparus ont disparu. Notamment, voilà, une pipe en porcelaine où elle va pouvoir la toucher pour remonter un peu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a eu comme sentiment, la personne, etc. Il y a toute cette partie enquête.
Et donc, il y a un moment, pour rebondir sur Renard, il y a Gaëlle qui lui envoie un message donc pour l'avertir que Renard est aux oubliettes, qu'il faut absolument qu'elle l'en sorte. Et donc, elle profite justement de cette enquête-là pour le ramener, tout simplement, pour utiliser son... Elle demande un service à Archibald qui lui, lui ramène Renard. Donc elle sauve son amie.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand elle a raconté son histoire, c'était la fin de son histoire à l'esprit de famille, Farouk, je ne sais pas si tu te souviens, mais du coup, il a fait une onde de choc à l'Assemblée parce que on comprend que l'esprit de famille a des énormes pouvoirs psychiques et que c'est très dur de résister à sa pression. Et en fait, là, la...
Il te grille le cerveau.
Voilà, c'est un peu ça. Et c'est un peu comme les griffes du clan des dragons, mais puissance 1000. Donc ça finit par faire saigner Ophélie, etc. Il y a le compteur, le premier, qui va la sauver en fait en détournant l'attention de Farouk, parce qu'il est très en colère de se rendre compte qu'en fait la marionnette, c'est un peu lui.
Oui. Et puis qu'elle lui est désobéie parce qu'il voulait pas connaître la fin de l'histoire.
Voilà, et elle l'a raconté quand même. Et d'ailleurs, au sortir de la prestation, Bérénilde, elle va un peu admonester du coup Ophélie en lui disant mais t'es malade de faire ça, on va perdre la protection de l'esprit de famille, est-ce que tu te rends compte des conséquences, etc. Donc voilà.
Ce qui se finit par se passer, c'est vraiment une rupture, je crois que c'est à peu près la moitié du bouquin. Et vraiment, en termes de narration et d'intrigue, c'est la bascule, quoi. Au début, effectivement, de cette mission de vice-conteuse, elle commence avec le début de cette histoire de poupée et se finit avec la fin de cette histoire. Et donc là, comme tu disais, perte de la protection de Farouk. Farouk est furax.
Il est deg.
Il est deg et il se renferme même. On dit que voilà, il y a plus de fêtes, il n'apparaît plus, il reste des semaines enfermé. Et donc, ayant perdu la protection, étant en danger.
Elle décide d'aller voir Thorne.
Thorne, ouais.
Et elle va pour ça donc utiliser le miroir pour aller dans son bureau à la trésorerie. Et quand elle va passer le miroir et arriver dans le bureau, elle découvre que tout a été retourné. Je sais pas si tu te souviens. Moi, j'avais trop aimé cette scène.
Ouais, pareil.
Parce que
il la pointe avec le pistolet.
Ouais.
Lui, il fait froid, la fenêtre est ouverte, les papiers sont en désordre.
Ouais, c'est vraiment le boxon, mais lui, il est toujours là. Bon, il s'est quand même fait agresser.
Ah oui, oui, oui.
Il est bien...
En mauvais point, oui.
Voilà, il y a lui qui est très, très ordonné, du coup, tout est vraiment sans dessus-dessous. Donc, en fait, Thorne lui explique très rapidement qu'il y a eu effectivement une effraction et que les personnes cherchaient des informations sensibles sur un dossier que lui est en train de faire en particulier. Et dont on apprend la teneur puisqu'il le dit à Ophélie, qui concerne la réhabilitation des personnes disgraciées. Bon,
disparus.
Bon là, on comprend un petit peu. Je sais pas si c'est dit pour qui ça va être. Qui est-ce qui tente de faire des disgraciés ? Je sais pas comment on dit.
Non, pas vraiment, pas à ce moment-là.
C'est pas à ce moment-là. Non. Bon. Gardons la surprise. Mais voilà, du coup, on sait qu'il travaille sur ça parce que, c'est comme ça a été dit dans le tout premier livre. À un moment, il y a, je sais pas si vous vous souvenez, la grand-mère d'Ophélie qui lui dit en gros, si tu désobéis, tu seras évincé en fait de l'arche et tu seras exilé. C'est pareil sur toutes les arches. Au final, c'est, on va dire, une des plus grosses punitions que tu peux recevoir. Sauf que les personnes disgraciées, on y reviendra, mais c'est un petit peu plus que ça, au final.
Mais oui, une scène très touchante, parce que il y a eu effraction, Thorne s'est battu, il est blessé, mais ça fait vraiment mal au cœur, parce que sans vraiment la personne enfermée dans ses tocs, parce que il va absolument chercher à prendre sur lui, et tout ce qui l'intéresse, ça va être de ranger son bureau, quoi.
Ouais, il remet en ordre ses papiers, il range les crayons bien droits. En fait, il est vraiment, malgré le fait qu'il se soit fait agresser, moi perso, je me fais agresser, je range pas mes papiers.
Mais c'est en mode genre sécurité.
Voilà, lui, il est vraiment impassible. On dirait qu'il est là en mode, c'est pas grave, il m'est arrivé ça, mais c'est bon, quoi. Donc, il reste très très calme. Et en fait, cette scène, elle est super bien, moi j'ai trouvé, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais ils ont une discussion sur l'importance d'être honnêtes.
Oui, parce qu'ils se faisaient, ils se boudaient, enfin, ils se boudaient un peu, enfin, Ophélie qui boudait Thorne,
oui, c'est vrai.
Parce que depuis, depuis qu'elle avait appris que finalement, c'était pas elle qui allait lire le livre de Farouk, mais que Thorne utilisait leur mariage pour
récupérer
ses pouvoirs, bon, ça, a priori, ça n'avait pas été dit dans le contrat. Donc, elle le boude depuis le début de ce tome 2, et lui cherche absolument à se réconcilier. Il appelle au téléphone au gynécée tout le temps, et elle trouve toujours des excuses pour jamais lui parler.
Le gros collant.
Voilà. Ça change, on le voit plus. D'ailleurs, voilà, dans cette première partie de livre, il est beaucoup plus présent. Et c'est un peu la scène tournant. Genre, il dit ouais, j'en peux plus, là, il faut qu'on se réconcilie. Je dis oui à tout.
Oui, voilà, c'est ça. Il fait vraiment un pas vers elle qui a l'air quand même de lui coûter.
C'est la première fois, oui.
C'est la première fois parce que sinon, il est vraiment très intransigeant sur sa façon de travailler et sur ce qu'il ressent. En fait, il prête pas beaucoup attention à ça. Enfin, oui et non, mais on va dire qu'il est un peu timide, un peu maladroit aussi. D'ailleurs, moi, j'avais noté que Ophélie, elle voulait ouvrir un cabinet de lecture.
Ouais, ça fait partie de
ses demandes.
Ouais, ses contreparties. C'est qu'en gros, elle dit je veux pas rester oisive. Moi, les fêtes à H24 à la cour, ça m'intéresse pas. J'ai un métier, je veux l'exercer. Donc, ça faisait partie de ses
voilà,
contreparties.
Donc, elle demande du coup la possibilité d'ouvrir un cabinet de lecture, ce à quoi Thorne lui dit qu'il est d'accord. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'en échange, pour lui montrer en fait qu'il est vraiment honnête et il s'engage vraiment à ne rien lui cacher, il lui offre sa montre de poche. Montre de poche qui sort à peu près 42 000 fois dans la journée pour vérifier l'heure, parce qu'il est hyper à cheval sur l'heure. Et en fait, c'est un peu son objet de toc. Il est tout le temps en train de la sortir pour regarder l'heure, il la referme, il la clique, etc. Donc il la donne à Ophélie. Du coup, là, c'est vraiment un passage où tu te dis, bon, ok, là, il prend sur lui, vraiment, il lui donne sa montre.
Oui, en disant, si jamais vous doutez de moi... Vous pouvez lire cette montre, gros, je vous l'autorise.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah oui, du coup, vu qu'elle peut... Bah,
oui,
effectivement. Et elle le fait pas.
Elle le fait pas.
Non, elle respecte l'intimité, et voilà. Parce que c'est pareil, Ophélie, elle a un principe, c'est-à-dire que elle ne lit pas les objets si le propriétaire ne l'a pas autorisé. Donc, c'est pour ça que, des fois, elle est réticente. Je sais pas si tu te rappelles, bon, c'est un passage qui est vraiment très court, quand ils sont dans l'aéronef dans le premier livre, le capitaine du coup de l'aéronef a une médaille et il arrête pas de se la péter en disant que elle vient de je sais pas où, que c'est un truc de guerre, etc. Et il demande à Ophélie en fait de lire, et au début elle veut pas trop parce que elle sait que des fois on peut être déçu en fait de la lecture qu'on a d'un objet et ce qu'on pense savoir. Et au final, effectivement, il s'avère que c'est pas du tout une médaille de guerre, c'est une médaille qui a été donnée à un concours à un enfant parce que, je sais pas, ça devait être un concours d'orthographe.
Oui.
C'est un truc vraiment débile et le capitaine, il est hyper déçu et du coup...
Le bon point.
Voilà, c'est ça, c'était un peu le bon point. Et en fait, il est hyper déçu, le capitaine, et il en veut à Ophélie.
Oui.
Alors qu'en soi, c'est pas de sa faute, elle lui a juste donné la vérité.
Oui, c'est vrai.
Donc ça fait partie de ses principes, effectivement, de ne pas lire un objet si on lui fait pas une demande expressément. Ou voilà, qui a vraiment...
Ça se justifie, quoi.
C'est ça. Donc là, j'ai trouvé, c'est bien fait, le fait que la montre, ça incarne l'intimité de Thorne qui... Elle peut, en fait, si elle le veut, vraiment tout découvrir.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un objet qu'il a depuis, on comprend, très longtemps.
Oui.
Et il l'a tout le temps sur lui. Donc elle est bien imprégnée, je pense, de tous ses souvenirs, de ses émotions, etc. Mais elle le fait pas.
Mais il y avait eu, je sais pas si tu te souviens, dans le premier tome, il y avait déjà eu un contact avec un objet intime de Thorne. À un moment, elle avait mis sa veste parce qu'elle avait froid.
Ah oui.
Parce qu'il est toujours dans son bureau. Toujours un froid, il fait toujours un froid de canard. Et elle avait mis sa veste et en fait, elle s'est endormie dedans. Et il y avait des dés dans sa poche. Et là, elle les avait lus contre son gré. Et elle avait entrevu une partie de l'enfance de Thorne.
C'est vrai.
Sans sa permission. Mais donc là, quand elle choisit, elle refuse. Mais c'est vrai que c'est un passage très touchant, et puis ça montre...
C'est le tournant un peu dans leur relation.
Ouais, mais on parle pas quand même de sentiments, il y a jamais...
C'est
vraiment des actes.
Ouais.
Des actes et de la confiance.
C'est un peu contractuel plus que... Il y a pas de sentiments, c'est juste deux personnes qui sont un peu dans le même bateau et qui décident...
une alliance.
Voilà, bon gré mal gré, de se dire, bon, ok, de toute façon, on est là, faisons les choses à peu près bien.
Oui.
Pour au moins se faire confiance, à défaut de pouvoir faire confiance aux autres.
C'est ça.
Donc c'est vrai que ça, c'est, je trouve, une des meilleures scènes.
Ouais, vraiment.
Mais bon, il y en aura une autre.
Dans cet homme 2, oui.
Dans cet homme 2, mais bon, voilà. C'est une de mes préférées,
ouais,
en tout cas.
Carrément.
Donc voilà, Thorne a eu son effraction au bureau. Il y a la famille d'Ophélie qui va débarquer.
Et oui.
Et alors, imaginez un peu la famille d'Ophélie qui est vraiment... c'est un peu des choupissons, quoi. Ils vont débarquer à la cité à ciel, qui est vraiment...
Ils vont faire bouffer tout cru.
Non, mais voilà. Donc, ça inquiète Thorne autant que Ophélie et Tantrosim, parce qu'ils se disent, non, mais clairement, ils peuvent pas arriver à la cité à ciel, c'est pas possible. Ça va trop mal se passer, en fait. Donc, ils vont décider, en fait, de partir.
C'est ça.
Pour aller, je me souviens plus du nom...
Au sable d'eau. Pâle.
Au sable d'opale.
Sable d'opale.
Ouais, ouais,
une station balnéaire du pôle. Et en fait, ça coïncide. Voilà, il y a la famille d'Ophélie qui arrive. Ils ont perdu la protection de Farouk. Ouais. Ils sont en danger. Donc,
partons.
Fuyons.
Mettons-nous au vert.
C'est ça, c'est l'idée. Donc, ils arrivent dans cette station balnéaire. Retrouvailles avec la famille. Donc là, un peu, on retrouve la même ambiance que dans au début du tome 1. Avec voilà, les mêmes personnages, on a la mère, le père, le grand-oncle, les sœurs, le petit frère. Tout ce beau monde arrive ensemble. Et Ophélie se sent encore plus en décalage avec sa famille. Voilà. Mais c'est intéressant ce que ça dit sur la famille. Enfin, c'est quelque chose, t'es loyal à tes parents, à tes frères et sœurs, tu les acceptes comme ils sont, ils t'acceptent comme tu es. Et... peu importe, au final, si tu prends des chemins différents, c'était mignon. Le message est...
Oui, bah, qui restait, c'est pareil, il y a aussi le fait de... Je pense que c'est un peu comme quand t'es un parent et que t'as un enfant qui s'en va, qui va faire sa vie un peu loin pour ses études ou peu importe. Bah, en fait, lui, il vit tellement de choses, alors que toi, tu restes dans ton quotidien, que tu connais. Et je pense que toi, en tant qu'enfant, quand tu reviens chez toi, après avoir vécu, je sais pas, ta vie universitaire ou parce que t'es parti en Australie pendant 2 ans, ben ça doit te faire un peu bizarre aussi de te dire que finalement, il n'y a rien qui a changé.
Oui.
L'ambiance est toujours la même, tes parents sont toujours les mêmes, mais par contre, toi, t'as beaucoup changé parce que t'as vu énormément de choses. Et c'est un peu ce qui se passe avec Ophélie parce qu'elle, ça fait déjà... elle a passé tout l'hiver au pôle. Elle a changé, elle a fait tellement de choses, elle a été mime, enfin... aller pour Bérénilde, elle a un peu découvert voilà, les complots, c'est une vie qui est tout à fait différente de l'Arche d'Anima d'où elle vient. Et d'ailleurs, rapport...
D'ailleurs, elle essaie de les préserver, enfin tout le monde essaie plus ou moins de les préserver, ces bonnes gens.
Bah, ils essaient, oui, ça fait un peu voilà, les gens de la campagne qui viennent en ville et qui ne se rendent pas du tout compte en fait, de ce que ça implique. Et d'ailleurs, le grand-oncle qui a fait le voyage... il lui apprend que le musée en fait, pour lequel Ophélie travaillait a été fermé.
C'est vrai.
Et il a été fermé à cause des doyennes. Je sais plus comment elles le tournent, mais elles disent que ça n'a rien à faire là, ou je sais plus.
Oui, il y a cette idée. Alors, avec la famille d'Ophélie, il y a une rapporteuse qui avait avec eux, donc une représentante des doyennes,
oui,
qui doit un peu voilà, faire son rapport. Et effectivement, avec son grand-oncle, ils déduisent que... Comment expliquer ça? C'est qu'ils essayent de retravailler la mémoire de l'ancien monde, enfin de supprimer toutes les mentions à la déchirure, à la guerre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, voilà, il y a une...
Oui, il y a une censure en fait qui est faite sur les souvenirs qui peuvent être retrouvés du coup via les vieux objets notamment qu'il y avait. Parce que de mémoire, je crois qu'il y a pas mal... tu sais, il y a une balle... qui a fait la guerre dans son musée, elle le lit d'ailleurs.
Ouais.
Elle le fait lire à quelqu'un d'autre aussi. Il y a des avions, il y a plein de choses qui voilà, sont liées à l'ancien temps. Et voilà, il y a une petite... ouais, c'est de la censure en fait.
Ouais.
Donc, ils en déduisent tous les deux que c'est pour ça que le musée a été fermé, parce qu'il permet en fait d'accéder à des souvenirs d'avant la déchirure. Ouais. Donc, bah, Ophélie, elle est quand même peinée de savoir que son musée a été fermé et son grand-oncle, bah, il se retrouve un peu aussi sans rien faire au final.
Ce qui expliquerait aussi le fait qu'il voulait un peu se débarrasser entre guillemets d'elle sur Anima, c'est que comme elle est capable de lire le passé des objets, elle est capable de connaître
voilà, la vérité.
C'est passé là.
Effectivement. Et donc, surtout ça, avec sa famille qui débarque, elle reçoit une nouvelle lettre qui lui intime de rompre ses fiançailles. sous peine de graves conséquences. Donc c'est toujours Dieu qui lui envoie des petits mots. Ouh là là.
Ben oui, parce que le mariage approche
Et
avec tout ça.
oui, en fait, là, la famille d'Ophélie est là pour justement participer au mariage.
Ah ouais, je crois qu'on est à J-7, un truc
Ouais,
comme ça. C'est
c'est
vraiment.
très très
Oui,
proche.
oui.
Et après, donc, moi, je m'étais mis dans mes notes, ils vont faire, il y a un sanatorium, je crois.
Oui, avec. Il y a plusieurs, ouais, on va dire, les faits marquants de ce voyage-là. Il y a d'une part la visite au sanatorium avec Bérénice, où elle retrouve la grand-mère mourante de Thorne et sa mère.
Ah, voilà, parce que
Ouais.
ouais, moi je me souviens de sa mère,
Oui.
et c'est là effectivement où on en apprend plus sur qu'est-ce qu'est une personne qui a été
Mutilée.
mutilée. Ouais, parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, il travaille en fait sur un dossier sur les personnes qui sont disgraciées. Et bah, là, le lien se fait assez bien. On comprend qu'en fait, c'est sa mère qui voudrait réhabiliter dans son clan, en sachant que en fait, quand une personne est. Bah, disgracié, en fait, on lui ampute son pouvoir.
Oui, c'est quand une personne est jugée, voilà, coupable d'un crime, elle subit la mutilation, donc l'esprit de famille reprend le pouvoir qu'il a insufflé à
Ouais,
sa
exactement.
descendance. Et donc, a priori, elle, la mère de Thorne, comme elle était chroniqueuse, c'est-à-dire elle maniait la mémoire, ou le fait qu'il lui ait retiré ce pouvoir, bah, ça lui a enlevé avec
Bah, toute sa
voilà,
mémoire.
toute sa mémoire, et donc on la retrouve dans ce sanatorium complètement béate.
Ouais, elle est perchée, quoi.
Voilà, une femme enfant.
Et en plus de tout ça, donc elle a un tatouage en plein milieu du front.
Ouais, une grosse barre.
Elle a, voilà, elle a une énorme barre. Enfin, ça d'ailleurs, moi je me le suis très bien imaginé parce que c'est extrêmement bien décrit. Et je me suis dit, ouais, ok, bah, c'est vraiment comme les Juifs à qui tu mets l'étoile jaune, genre, on peut. Enfin, t'es sûr que tu sais qui c'est et tout. C'est vraiment un moyen d'afficher clairement que la personne, elle a fait quelque chose de mal. Et qu'elle a été bannie, quoi.
Et comme on n'est plus à la Citatielle, effectivement, autre épisode marquant, Ophélie va amener son petit frère dans un carnaval, et donc on va, et même en parlant dans l'hôtel où ils sont, on découvre les autres clans. Parce que jusqu'ici, on était dans la cour, donc on connaissait que les dragons, les mirages et la toile. Et là, donc on en apprend un peu plus sur les autres, enfin le reste du pôle et le reste des pouvoirs. Il y a ceux qui font dormir,
Les narcotiques.
les narcotiques, les invisibles, là, ceux qui arrivent à illusionner
Bah,
leur présence.
c'est ça. Et
Il
il
y
y
a
a
qui d'autre?
les persuasifs.
Oui, ok.
Voilà, donc en fait, il y a beaucoup, finalement, il y a beaucoup de clans plus ou moins importants, mais c'est de ceux-là qu'on parle. Parce que en fait, ils vont commencer à avoir une place un petit peu plus prenante dans l'histoire. Donc dans ce carnaval, voilà, on déambule un peu, c'est le côté l'insouciance de l'enfance, alors que Ophélie, elle est là hyper stressée parce qu'elle va être mariée avec quelqu'un dont elle n'a pas du tout envie, enfin sur une arche qu'elle déteste au final, loin de sa famille, enfin là le contraste il est vraiment très saisissant, quoi. Et donc effectivement, il y a cette petite escapade au cirque. On découvre aussi. Donc, Bérénice ne va pas être loin d'accoucher et elle demande à Ophélie en fait de devenir la marraine de son futur
C'est
bébé.
vrai.
Donc ça c'est pareil, c'est un petit moment émouvant parce que Bérénice a toujours été un peu sèche et un peu dure avec Ophélie et là on se rend compte que finalement bah, elle a un peu accepté et que la marque de confiance qu'elle lui fait c'est bah, est-ce que tu veux bien être la marraine de mon bébé?
Tu veux choisir son prénom.
Voilà, tu veux choisir son prénom, donc ce qui est quand même une grande responsabilité. Moi, bon, en tout cas, voilà, c'est un bel acte de la part de Bérénice, qui est d'habitude très centrée sur elle-même. Ophélie, elle reçoit encore des lettres, donc là, c'est Dieu désapprouve cette union, enfin voilà.
Et puis ben, on arrive à le deuxième meilleur épisode du bouquin. Finalement, si on doit retenir des choses de Sable d'Opale, ça va être bah, du coup les retrouvailles avec la famille, le sanatorium, le carnaval et l'affaire de la gifle. Alors.
De la gifle, mais qui commence par un banal repas de
C'est
famille
vrai.
avant le mariage, donc c'est à peu près 4 jours avant le mariage. Il y a un repas qui est organisé ben justement pour les familles, et encore une fois, Thorne ne respecte pas du tout les règles de bienséance, au grand dam de la mère en fait d'Ophélie, Enfin, elle se rend compte que vraiment c'est un gros goujat, quoi.
Ouais, surtout qu'il a, encore une fois, c'est la première fois. Il les avait totalement abandonnés au sable d'Opale et c'est la première fois qu'il se présente à sa famille sous l'insistance d'Ophélie.
Voilà,
Sur l'insistance
et ça passe
d'Ophélie.
pas très bien.
Maintenant,
Ils
pas
sont
trop.
là en mode, ah, le gendre, oulala, ça va pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe après justement ce repas qui bah, se passe pas bien?
Ben, elle va raccompagner Thorn dans à une rose des vents, donc c'est ce qui lui permet de voyager plus facilement
J'avais oublié. Mais oui, c'est trop stylé en plus.
entre les différents endroits de la Citadelle et du pôle. En général, c'est un système de portes qui a été mis en.
C'est un peu Stargate pour ceux qui connaissent
Ouais, c'est ça,
la
c'est un
planète des
peu.
toits.
Voilà, il y a des portes, il y a des couloirs, et en franchissant ces portes-là,
Tu te retrouves
voilà,
ailleurs
tu te
plus
retrouves
loin.
ailleurs. C'est une invention de la mère Hildegarde et de son arche Arcanterre. Ils sont spécialisés là-dedans. Et donc, il y a eu, comme pendant tout le livre, il y a eu quand même ce rapprochement, cette honnêteté, cette réconciliation entre les deux. Il y a donc ils se disent au revoir et on a le point de vue d'Ophélie. Ophélie à ce moment-là qui dit je sais plus ce qu'elle rétorque à Thorn et celui-ci se baisse et l'embrasse un peu par surprise.
Ouf!
Oh
Et là, vraiment,
choc
alors,
barre.
choc barre, comme on dit. Non, mais il faut vous dire que, bon, là, on en parle, ça a l'air un peu évident parce que, voilà, on vous a un peu posé les jalons, mais quand on lit le livre, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un rapprochement aussi soudain
Non.
parce que c'est vraiment décrit comme une relation contractuelle de on va céder, mais on ne peut pas se blairer quand même. Donc là, c'est très, très soudain. Donc, Thorn, effectivement, embrasse Ophélie, et qu'est-ce que fait Ophélie?
Eh bien évidemment, elle le gifle.
Bonne gifle. Allez hop.
Aller-retour. Et donc bon, ils arrivent quand même à s'expliquer par rapport à ça. Ils disent oh, je voulais pas, pardon, vous m'avez surprise et tout ça. Et Thorn qui réplique moi je voulais juste vérifier quelque chose. Genre très pragmatique,
Ouais.
en mode ok, je reste. Enfin, je voulais prouver une théorie. Enfin, ça reste. C'est pas, encore une fois, on parle pas de sentiments dans
Ouais, on
cette.
sait pas trop de quoi
Non.
il parle, hein.
Il voulait vérifier quelque chose.
Mais
Voilà.
quoi?
Enfin,
Ben, on sait pas trop.
c'est pas. C'est parce que Ophélie s'était dit des choses, mais encore. Ouais, ça, tu sais, c'est pour prouver quoi? On sait pas. Ouais, c'est.
Mais en tout cas, la scène est très très bien amenée
Oui.
et surtout qu'il me semble que juste après ben, cette discussion un peu houleuse, il y a la Citadelle qui apparaît.
C'est ça.
Parce qu'en fait, la Citadelle, comme on l'a dit, est une arche qui flotte et qui peut donc se déplacer. Et en fait, elle s'est déplacée pour venir juste au-dessus des sables d'Opale. Et donc là, on se dit, oulala!
Farouk s'est réveillé, Ophélie lui manquait, et donc il a
Voilà.
décidé, un claquement de doigts, de faire
Bien joué.
apparaître voilà, la Citadelle au-dessus des sables d'Opale.
Voilà. En sachant que toujours le récit dans les chapitres est coupé par pas mal de souvenirs, encore une fois, de l'enfance des esprits de famille. D'ailleurs, on nous donne un peu plus de détails. Il y a des souvenirs où Farouk, il est dans la cour d'un bâtiment en ruine après la guerre, on nous dit. Il y a des enfants qui lui jettent des pierres dessus et Artémis, donc qui est l'esprit de famille de l'arche d'Anima, donc celui d'Ophélie, lui explique qu'il va devoir apprendre à interagir avec les humains. Voilà, on a des petites bribes comme ça qui sont un peu disséminées dans le récit, mais c'est vraiment pas clair. C'est vraiment très, c'est comme un rêve en fait. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas, donc on a ça toujours en toile de fond. Et il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le petit chevalier, te souviens-tu?
Oui, bah du coup tout le monde, enfin en tout cas Bérénilde et non même pas, non parce que elle est en retrait à ce moment-là parce qu'elle va bientôt accoucher donc elle ne revient pas à la cour de Farouk.
Non.
Donc non c'est les gendarmes qui viennent saisir Ophélie qui l'emmène devant Farouk et à ce moment-là elle assiste donc à la mutilation du chevalier,
Oui.
c'est-à-dire que alors, on sait que c'est lui qui avait commandité le meurtre des dragons. C'est pas pour ça qu'il a été impliqué. C'est parce que il avait dressé des bêtes sauvages. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit.
Oui, en fait, le motif, c'est pas parce qu'en fait, ça serait reconnaître que les
Ouais.
dragons avaient une place à la cour,
Oui.
ce qui n'était pas le cas. Donc, ça a été tourné d'une façon en disant non, mais c'est interdit en fait de prendre possession des bêtes pour les illusionner. Le chevalier, effectivement, va être dépossédée de ses pouvoirs et va se retrouver exactement comme la mère de Thorne, donc c'est-à-dire une grosse croix en plein milieu du visage. Et sur ça, d'ailleurs, finalement, donc Farouk s'occupe de ça et après il va charger Ophélie de retrouver les disparus, dont Archibald
Et
qui a
oui,
disparu.
l'ambassadeur a disparu. Ils ont
Ouais.
une relation particulière, ces deux-là. Il y a même un peu de jalousie de la part de Thorne. Il y a
Oui.
un rapprochement entre Ophélie et Archibald dans ce tome 2.
Ouais, mais alors moi je l'imagine vraiment comme le vieux mec à redingote, quoi. Donc
Oui.
je me dis à
Ah
aucun
ouais? Ah,
moment,
c'est
ouais.
vrai, tu l'imaginais comme ça. Ok.
Ah, mais non, Archibald,
Mais oui, mais
mais.
c'est celui qui cocufie tous les maris.
Mais oui, ah, ça y est, je me souviens. Non, bah alors j'oublie, je retire ce que j'ai dit. Ok, non, je le voyais pas. Enfin, oui, mais il est un peu charmeur, quoi.
Oui, très.
Très beaucoup, même.
Oh.
Pour dire les termes, c'est le charreau
Oui.
du pôle. Mais effectivement, donc il a disparu et donc Ophélie va être chargée en fait de retrouver Archibald et les autres aussi hein, qui sont disparus. Et pour ça, elle va aller inspecter la chambre d'Archibald
En utilisant son don, évidemment.
et tout à fait pour lire du coup dans un objet. Donc elle va retrouver une petite aiguille d'un sablier bleu.
Oui, une goupille. Enfin, voilà
Ah
une
oui, les
goupille
goupilles.
de sablier, comme on dégoupille une grenade.
C'est ça. Et en fait, elle va découvrir que ça, en fait, elle va remonter la piste jusqu'à l'usine de fabrication des sabliers, où elle va aller accompagnée de Thorne.
De Thorne et du baron Melchior, qui est son. Enfin, que Farouk a nommé comme son.
Représentant, oui.
Représentant ouais, de la cour, quoi. Et ces sabliers, oui, la particularité, ce qui fait lien avec les disparitions, c'est que, je sais pas si tu te souviens, les disparus, en fait, il n'y a aucune trace, ils étaient à un endroit, et voilà, dans la seconde, ils ont disparu, il n'y a aucune trace d'eux, il n'y a pas de signe d'effraction, pas de départ précipité, de lettre d'adieu, rien du tout. Et donc le lien se fait avec les sabliers, parce qu'effectivement, dès que tu en dégoupilles un, tu es propulsé dans une autre, soit dans une autre pièce,
Soit dans
soit
une dimension
ouais,
un peu,
temporalité, on
ouais,
sait
c'est
pas
ça.
trop.
Donc elle va remonter la piste grâce aux matelas en fait qui ont disparu, parce qu'en gros, il faut vous dire que si vous dégoupillez en fait un sablier, vous atterrissez du coup dans un espèce d'entrepôt géant où il y a des matelas, où en fait votre corps repose pendant que vous
Vous
subissez,
rêvez,
ouais,
oui,
pendant que vous avez l'illusion. Et au final, donc logiquement, les personnes devraient se trouver sur ces matelas dans cet entrepôt, or ce n'est pas le cas. Et finalement, Ophélie, elle va se servir encore une fois de son don pour remonter la piste des matelas volés en touchant, je crois que c'est dans l'ascenseur. Pour remonter voilà jusqu'aux matelas qui ont disparu, et normalement les matelas sont associés aux personnes. Voilà, donc il y a tout ça.
Sachant qu'elle a moins de 24 heures, je crois, pour mener son
ouais
enquête.
ouais elle, non, vraiment là c'est timé, il faut qu'elle se
Ouais.
dépêche, donc c'est un peu la pression. Finalement, elle va réussir à retrouver les personnes dans un illusoire.
Oui, l'illusoire érotique de la fameuse Cunégonde dont on avait parlé au début.
Voilà, donc on se dit ben c'est elle, et en fait
Non.
c'est pas elle, c'est pas elle, c'est le baron Melchior
Oui.
qui était.
Le styliste officiel de la cour.
C'est ça.
Ils sont parents, je crois. Ils font partie des mirages tous les deux.
Ouais, mais au final, c'est lui qui. En fait, on comprend que c'était un coup d'État en fait contre Farouk et toute sa cour.
Contre la toile, surtout, Archibald.
Contre la toile, tout à fait. Et d'ailleurs, Archibald, elle le retrouve vraiment à la limite de crever. Elle le renvoie, elle casse le sablier qui était associé, donc elle le renvoie parce que elle savait qu'il était toujours vivant, comme les personnes de la toile sont interconnectées. Voilà, les sœurs d'Archibald avaient dit, mais si, il est toujours vivant, mais le lien est très très ténu, donc il faut
Oui, ils
se
étaient tous
dépêcher.
endormis.
Voilà,
C'est
c'est pour
vrai.
ça que Ophélie notamment devait se dépêcher parce que
Ouais.
au bout de 24 heures, il serait plus là. Donc elle le retrouve. Finalement, Melchior se révèle être l'instigateur de tout ça, et c'est un peu ça. Et là, il y a une bataille en fait qui va se passer dans l'illusoire, puisque bah forcément Melchior il essaye de buter Ophélie parce qu'il se dit bah attends,
Elle a découvert mon secret.
le poteau rose comme on dit. Et donc voilà. Et sur ces entrefaits, qui débarque pour sauver Ophélie?
Thorne.
Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait le petit homme?
Et utilise ses petites griffounes.
Voilà. Donc Thorne, il arrive, il voit qu'Ophélie est en très mauvaise posture. Le baron Melchior, il a vraiment le dessus. et il va en fait laisser sortir sa sauvagerie. Il faut savoir que dans le livre, c'est dit très clairement que Thorne essaie beaucoup de réfréner ses griffes. Et d'ailleurs, Bérénide a appris à Ophélie à résister à l'assaut des griffes, parce que ça lui est arrivé justement au tout début dans le premier livre, il y a la
Sans faire
sœur,
les frais.
la demi-sœur de Thorne qui l'agresse. Je sais pas si tu te souviens,
Oui,
Ophélie.
c'est vrai, c'est vrai.
Voilà,
Qu'elle
donc
les
après,
croise à un moment
voilà,
dans l'ascenseur.
c'est ça. Donc ils lui ont appris à un peu résister, mais bon voilà. Et elle sait pas s'en servir. Pour l'instant, elle les a pas de toute façon, donc elle est tranquille.
Mais Sector lui avait promis de jamais lui faire du mal.
C'est ça. Et il va tuer le baron. Donc il y a vraiment un côté la loyauté et le sacrifice qu'il est prêt à faire envers elle. Mais il va finir quand même par s'excuser auprès d'Ophélie. Et en fait, il est plein de remords, il lui demande pardon. En fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais un peu, je pense, pour tout. Et il lui explique qu'en fait, ils vont devoir se séparer pour leur sécurité, que le mariage pourra pas avoir lieu, que vraiment, c'est trop dangereux. Et elle va dire, bah ok, bah écoute, faisons ça, quoi. Donc là, tu dis, bon, ben d'accord. Donc au fait, finalement, peut-être que le baiser, c'était pour ça, pour vérifier si ça pouvait continuer ou pas, donc visiblement pas. Et par rapport à ça, Thorne, au final, il va être, je crois, jugé, entre guillemets, un peu à tort. Ils vont essayer de lui faire porter le chapeau sur le meurtre du baron Melchior. Que ça commence à sentir un peu le roussi pour lui.
Oui, il est emprisonné.
Il est emprisonné. Entre-temps, pendant qu'il est emprisonné, bah, Ophélie, elle est dévastée parce qu'elle se dit, bah non, ça peut pas se finir comme ça, il peut pas se faire emprisonner parce que qui dit emprisonnement, en plus, là, il a tué quelqu'un, il va se faire déposséder de ses
Mutilé,
pouvoirs.
bah
Voilà.
oui.
Mutilation et exil. Donc, c'est pas super. Entre-temps, elle va voir l'esprit de famille Farouk. Elle le découvre, tu sais, dans sa bibliothèque. Il erre parmi tous les carnets.
Bah oui, parce qu'il a il a que des penses bêtes, parce qu'il oublie
Il n'a pas de mémoire, en fait.
lui sa mémoire. Non, la mémoire
C'est pas
c'est
son
pas un
truc.
truc,
Il n'est pas
donc il note.
chroniqueur. Il note le moindre truc, mais en même temps, il a une. En fait, c'est un peu les méandres de sa mémoire, mais il range les trucs, mais il n'est pas capable de se souvenir où il les a mis, donc ça sert pas à grand-chose. Et en fait, elle va le voir pour lui dire que finalement, elle veut quand même se marier avec Thorne. Je sais plus trop comment c'est tourné à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se
Ouais, qui se
télescopent.
superpose.
Et en fait, elle va lire.
Elle va faire la lecture du livre
Voilà, à
à
la
la
place de
place de
Thorne.
Thorne.
Donc, au début, elle galère parce que, comme on l'a dit, c'est un livre de peau qui est complètement illisible et imperméable. Mais au final, elle va trouver une toute, toute petite pointe de je sais plus quoi.
Ouais, une déchirure. Enfin, en fait, elle va pas réussir à décrypter l'histoire, mais à remonter. À faire l'histoire vraiment de l'objet et non pas de son propriétaire. Enfin, du coup, elle va pas avoir les souvenirs de Farouk, mais
Non.
elle va.
Voir comment ça a
Oui,
été construit,
c'est
un
ça.
peu, c'est plus sur les émotions. Donc elle va dire, en fait, elle va expliquer à Farouk que le livre reflète qui il est. Donc c'est vraiment l'histoire et les souvenirs qu'il contient, c'est genre, comment, c'est essentiel à son identité,
Oui,
mais
son ADN, quoi.
c'est voilà, c'est un peu son ADN, c'est comment il doit être et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais par contre, le livre, il y a des pages qui ont été arrachées à la fin, et ça explique notamment pourquoi Farouk se souvient pas, enfin a une très mauvaise mémoire, parce qu'il a une espèce d'amnésie. Et d'ailleurs, cette amnésie, elle affecte les autres membres de, enfin les autres esprits de famille, donc ses frères et sœurs. Mais ça, on l'apprendra un peu plus tard. Pareil, ils ont une partie de leur souvenir qui a été amputée. Donc Farouk, il n'y croit pas. Tout de suite, il dit à Ophélie, mais non, je crois pas du tout à ce que tu me racontes. C'est un peu comme l'histoire du conte avec la
Ouais, la
fillette.
poupée.
Il repousse en bloc en disant, mais non, c'est pas possible, parce qu'il était plein de certitudes, et là,
Mais oui.
tout s'effondre. Et il lui reproche, en fait, de lui voler sa mémoire, carrément. Donc, il va demander à ce que ce soit Thorne qui fasse une seconde lecture pour un peu corroborer ce qu'elle a dit, en sachant que clairement, Thorne, il n'a pas le niveau pour lire aussi loin que ce qu'elle a fait, elle.
Oui, c'est un apprentissage, le fait de
Voilà.
voilà d'utiliser ces pouvoirs-là.
Elle le fait depuis des années, alors que Thorne, il pourrait jamais avoir ce niveau de précision, en fait, pour remonter. Donc elle va retourner, en fait.
Donc le mariage finalement va avoir lieu.
Et oui, le mariage va avoir lieu, il va avoir lieu où?
11-11-11.
C'est super. Vraiment une ambiance, on adore.
Le parloir.
C'est ça. Donc elle va retrouver Thorne, il est vraiment très affaibli. Il est blessé. Donc on sent qu'il n'a pas été très bien traité. Il y a quelqu'un qui va célébrer le mariage, donc c'est pas voilà, très joyeux. Et il y a la cérémonie du don, où effectivement ils échangent leurs dons. Donc Ophélie va devenir propriétaire du don des griffes, et de son côté, Thorne il va pouvoir traverser les miroirs et lire le passé des objets.
Comme convenu.
Comme convenu. Et à ce moment-là, il se passe un truc incroyable. Il y a un personnage en fait qui apparaît à l'intérieur de la prison, en sachant que la prison, c'est vraiment un bloc hermétique avec une porte en or massif. Donc vraiment, personne ne peut rentrer dedans à moins d'avoir les clés. Et il y a quelqu'un qui traverse littéralement la porte et on apprend que c'est un mille-faces.
C'est ça.
Et le mille-faces, on l'avait déjà vu.
On l'avait déjà vu, il fait partie des numéros que Ophélie et son frère vont voir au carnaval, donc proche des sables d'Opale.
Voilà, donc ils ont vu ce mille-faces. Donc le mille-faces, on sait pas qui c'est.
Il n'est pas originaire du pôle, on ne sait pas
Ben en
si ça
plus,
fait partie d'un clan
non.
déchu.
Non, parce que ça pourrait être les personnes qui prennent les. Enfin, là en plus, le mille-faces prend l'apparence de personnes qu'ils ont connues ou qu'ils connaissent. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est comme si vous avez l'habitude de. Enfin, il se transforme en Thorne, après il se transforme en Ophélie, c'est super bizarre. On comprend pas trop ce qu'il veut, il y a un espèce de chaos, il y a les meubles qui volent partout, Thorne il arrive à sortir, il avait caché je crois, un petit pistolet. Enfin, je sais plus, mais il essaie de défendre Ophélie parce qu'il sent que le mille-faces. Mais en fait, on sait pas qu'est-ce
Ouais,
que
on
c'est,
sait
on
pas,
sait
on
pas qu'est-ce
imagine que
qu'il
comme
veut.
elle traverse les miroirs, il va, est-ce qu'il en a après elle,
Voilà, on sait pas du tout qui est ce personnage. Donc là, il y a un gros melting pot de plein de choses. Ophélie, finalement, elle finit par être éjectée en fait en dehors de la salle,
De la cellule,
de la cellule. Et elle va directement courir pour aller chercher l'aide auprès de Farouk, sachant que quand elle arrive, Bérénilde est en train de.
d'accoucher.
Elle a déjà accouché, je crois.
Elle a déjà accouché, ok.
Je sais plus.
Je me souviens plus la chronologie.
Je crois qu'elle a déjà accouché. Mais elle est en train de demander à Farouk d'être indulgent avec son neveu et de ne pas le laisser croupir en prison et de ne pas lui voler ses pouvoirs, etc. Donc il retourne
Dans
à
la
la
cellule.
prison et il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne.
Voilà.
Disparition.
Ni l'un ni l'autre. Et ça se finit en fait le livre sur
Et
ça.
oui,
On
cliffhanger, la
sait.
fin du 2.
Ouais. Et au final, Ophélie va. Les dernières scènes, elle va repartir en fait avec un aéronef. On comprend qu'elle va repartir sur Anima, sans Thorne. Et voilà, ça se termine comme ça. Qu'as-tu pensé de cette fin?
Bah franchement je crois que j'ai enchaîné le 3 mais genre direct, enfin moi c'était pas possible
Moi aussi, j'avais trop envie
de
de
laisser
savoir.
sur ça là, c'était pas non, je sais pas comment les gens ils ont fait quand ça a été paru il a fallu attendre que le livre sorte, enfin, enfer, enfer.
Ouais.
Donc ouais vraiment là pour le coup cliffhanger, le mot prend tout son sens oh, t'es... encore une fois hein, enfin c'est cette saga là, tétralogie incroyable. Tiens, en haleine, très original. Là, on développe un peu plus le côté. On a du mal à parler de romance encore, hein, mais en tout cas, ces deux premiers livres aussi, ils forment. On a la fin d'un arc.
Ouais.
Et voilà, au moins, ça finit, ça clôt ce premier arc. On est arrivé sur le pôle, on repart du pôle.
Il s'est passé plein de
Il s'est
choses.
passé plein de choses, mais on passe maintenant à une autre partie de l'histoire.
Ouais, il y a eu beaucoup de choses là qui se sont amorcées et qui vont être plus approfondies dans les tomes qui arrivent. Mais moi, du coup, j'ai quelques questions pour toi.
Le pêle-mêle, vas-y.
Est-ce que tu penses que tu serais une bonne conteuse?
Genre, voilà,
Si.
être devant un public et raconter des histoires.
Ben, par exemple, si ta vie en dépendait.
Ah, je suis pas trop woman show, non.
Ouais, je
Woman,
comprends.
non, pas trop.
Ouais, donc toi, on est d'accord que tu préférais plutôt lire des objets en solo
Carrément.
plutôt que de raconter des histoires devant le public entier.
Carrément. Et toi?
Ah, bah pareil, hein. Ça me déplairait. Vraiment. Mais bon, après, si c'est ça ou crever, bon, bah, je serais peut-être comme Ophélie, quoi. Je me dirais, bon, bah tant pis.
Le petit chaperon
Je fais
rouge.
ça. Et après, j'avais une autre question. Tant to be alive. Quel est le toc qui te mettrait le plus hors de toi?
Ah ouais, chez un partenaire ou chez quelqu'un. Oui, c'est vrai que Thorne est rempli de toc, en fait, c'est très ponctuel, il claque sa montre toutes les 2 secondes, vraiment accro au rangement, quelqu'un d'inflexible.
Ouais, moi je pense que c'est l'inflexibilité qui doit être le
Ouais,
plus dur à gérer, quoi.
oui.
Quelqu'un qui est vraiment.
Campé sur ses positions,
Ouais.
sur son agenda, ouais, genre il faut pas déroger.
Ah non.
Ouais, non, chiant.
Très chiant. Ça ou les gens qui respirent trop
Oh oui, dans
fort.
les bruits de bouche, en mangeant.
Bah, c'est vrai qu'une fois que tu t'es focalisé dessus, t'es là en mode c'est insupportable. Mais en fait, la respiration, c'est pareil, quoi. J'ai envie de dire, mais arrête de vivre. Juste arrête de respirer, s'il te plaît.
C'est vrai, c'est vrai.
Et allez, une petite. Ah, quoi qu'il m'en reste deux.
Vas-y.
Sur quel personnage utiliserais-tu tes griffes de dragon?
Oh bah, j'ai eu très envie d'utiliser les griffes sur le chevalier dès que tu sais que voilà.
Putain, c'est vrai que c'est une crevure, hein, ce gamin.
Que c'est lui, même si c'est un gamin, je vais tout droit, c'est lui que je tanque direct. Ouais, ça aurait été le chevalier parce que personnage détestable, méchant,
Mesquin.
mesquin, mais oui, méchant, genre sciemment, quoi.
Ah
Vraiment,
oui, lui c'est
quelqu'un
ouais.
qui veut faire du mal,
C'est une enflure.
clairement.
Moi je pense que je les aurais utilisés
Oui.
sur Farouk.
Genre, réveille-toi.
Non mais il est insupportable.
Ouais.
Il est trop chiant, trop dans sa bulle. Dès que tu lui dis un truc, il est ah, nanana. C'est vraiment le sale gosse, tu peux rien lui dire quoi. Ouais, je pense que j'aurais utilisé sur lui.
En même temps, c'est intéressant cet tome 2 où, avec l'histoire de la poupée en filigrane et tout, tu te rends compte que bah, au final, cette figure immortelle, cette divinité, bah, elle vaut pas bien cher. En tout cas, au pôle, c'est pas lui qui tient les ficelles, quoi.
Ah non, clairement pas. Non, non, lui il est bien utilisé par contre. Et la petite dernière, si, enfin, pour ou contre le mariage forcé, si le type est ultra
Oh, bah je sais pas en fait.
BG. Ça dépend qui c'est, genre
Ça
Henri
dépend.
Cavill, je sais pas, hein.
Non, en vrai, je pense que ça marcherait un temps, mais bon, quand même quoi.
Moi, ça marcherait pas.
Non.
J'ai déjà eu le cas où j'ai. Petite parenthèse, quand j'étais très plus jeune, je suis sortie avec un mec que je trouvais archi beau. J'étais en mode ah ouais, il est trop beau et tout, il ressemblait à un surfeur australien et tout. Mais le mec était débile, vraiment. Aucune conversation, rien.
Ben oui.
Et comme quoi la beauté ne fait pas tout, si
Non.
vous nous écoutez. Vous le savez peut-être, mais en
Oui,
tout
ça
cas.
tient pour les apparences, pour voilà
Ouais,
le
voilà.
côté
Bon.
faire des photos
Ouais,
sur
uniquement.
Instagram.
Voilà, uniquement physique, bon d'accord.
Oui.
Après mariage forcé quand même.
Ouais, non, pour vivre avec quelqu'un.
Mais bon, c'est vrai que c'est mieux si c'est un peu beau, quoi.
Bah oui.
Bon, en tout cas, on a bien aimé ce
Oui.
deuxième tour. On a hâte de savoir qu'est-ce qui va pas se passer dans le troisième. Et on espère que vous aussi, ça vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas, voilà, à parler autour de vous les podcasts si ça vous a plu. Et puis, on se dit à la prochaine!
À la prochaine.